Space Oddity.
Bienvenue les amis et les auditeurs d'Espace Oddity. And welcome to the new episode of Space Oddity. I'm Christopher and today's introductory host for this episode. As we always face new encounters in daily life as well in academic, we are going to try something new today. Instead of sticking to the established language and routines in this podcast series, we thought to open the format and therefore we invited the French-speaking geograph Mesa Birmiafal from Dakar, Senegal, who was our latest guest here at the CRC in Berlin, to discuss with Electra Gracie about la marginalité spatiale.
Bon, je dirais que je m'appelle Mesa Birmiafal, je suis docteur en géographie. Je suis actuellement en poste comme chercheur à l'Institut fondamental d'Afrique noire de l'Université Charente Diop de Dakar au laboratoire de géographie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis docteur en géographie. J'ai travaillé sur la cartographie coloniale dans un essai de géographie historique de la petite côte. Et actuellement, je mène des travaux qui font focus sur la question de marginalité et de marche naturellement.
Oui, bonjour, je m'appelle Elettra Griesi, je suis une architecte et anthropologue socioculturelle italienne et actuellement je suis un chercheur universitaire et en même temps membre associé de l'SFP dans les projets Réfiguration de l'espace, mais je suis aussi porte-parole à l'Institut des protestes et mouvements sociaux de l'Université technique de Berlin. Au moment, je travaille sur mon doctorat à l'Université libre de Berlin dans le département de géographie humaine. Et donc, dans le cadre de mon doctorat, j'analyse les conséquences que les processus historiques d'expropriation territoriale, mais aussi les politiques européennes pour arrêter la pauvreté et la migration irrégulière ont eu sur une communauté marginalisée des pêcheurs de Dakar. Et quand je parle des conséquences, je me réfère à les changements qui ont eu lieu au niveau économique, social et spatial de cette communauté.
Là, je vois une certaine affinité et dans nos thématiques de recherche. Seulement, peut-être qu'il y a une différence d'approche. Moi, j'ai le regard du géographe, pendant que peut-être vous avez une approche disciplinaire qui tend plus vers le social, ou bien la sociologie, l'anthropologie, ces préoccupations, ces questions-là. Bien évidemment, cette affinité se fait ressentir également surtout lorsque je me rappelle un tout petit peu des différents aspects, des différents travaux que j'ai eu à effectuer sur la question des marges et de la marginalité, et surtout du point de vue conceptuel, parce que la marginalité reste une notion, un des paradigmes nouveaux et qui s'y est très faiblement exploré par les géographes. Et pour moi, il reste une notion fondamentale de la géographie dans ces deux différentes branches que sont la géographie physique comme la géographie humaine. Et je vais y revenir d'ailleurs parce que du point de vue conceptuel, la question de la marge ou bien la marge peut être appréhendée suivant deux niveaux. Du point de vue social qui se rapporte à une considération péjoratif d'une catégorie de la société. Et là, on est dans la géographie humaine. Et dans ce qui est de la géographie physique, il y a ce qu'on appelle des espaces de marche. Et là, on est sur le matériel. Et ça me ramène également à une autre dichotomie de la notion de marginalité, qu'il s'agit de la marginalité de fait et de la marginalité de droit, et chacun avec ses implications, ses liens, ses rapports ou bien ses affectations au démembrement, deux grands démembrements de la géographie. Et j'ai beaucoup travaillé, je dirais surtout, et quand en évoquant ce sujet, ça me ramène sur une étude que j'ai déjà effectuée en 2017 et qui porte sur la transgression même de la notion hein, du non-edificandi. Et le non-edificandi, c'est vraiment le concept qui va le plus avec la question de marge parce que c'est une forme de discontinuité des zones d'interdiction qui sont mises, des zones de mise à l'écart ou bien à côté.
Est-ce que je peux te demander une chose parce que j'ai pas très bien entendu? Tu as parlé des marginalités des faits, mais aussi des marginalités des droits. Est-ce que tu peux approfondir cet aspect?
Bien évidemment, parce que quand je parle de marginalité de fait, c'est-à-dire que de nature soit l'homme, bon, c'est peut-être discutable, mais c'est suivant les considérations ou bien suivant le statut social de la personne, parce que l'individu peut, hein, de fait, se situer dans la marge ou bien dans une situation de marge. Là, c'est purement par rapport à la société, vis-à-vis de la société. C'est dans la construction même de l'espace ou bien dans la construction des mœurs sociaux. Mais quand je parle de marginal de droit, cela veut dire que il s'agit d'une marginalité ou bien d'une situation de marginalité qui a été construite par des mécanismes juridiques qui ont des sous-bassements juridiques tout naturellement, comme les zones de servitude et les zones de non-edificandi que je viens d'évoquer, qui sont des zones qui ont été définies par l'urbanisation, par l'urbanisme, par les outils, les mécanismes du droit.
Et donc, je suis aussi intéressée à entendre un peu plus sur tes travaux sur la transgression non edificandi. Et est-ce que tu peux faire des exemples?
Dans mes travaux, j'ai surtout fait le focus sur Dakar, qui offre, voilà, comme en tant que capitale d'un pays hein, de l'Afrique subsaharienne, le profil intéressant pour aborder ces sujets, pour aborder ces questions. Voilà. On peut observer là-bas plusieurs formes de transgression du non-edificandi, parce que on peut aborder la question du non-edificandi suivant plusieurs aspects, suivant plusieurs angles. Il y a deux formes de non-edificandi. Le non-edificandi, ça nous ramène également au sujet, à la conceptualisation que j'ai fait un tout petit peu de la marginalité de fait et la marginalité de droit. Du point de vue de la non-edificandi aussi, il y a ce qu'on appelle la non-edificandi qui est lié aux caractéristiques naturelles d'un espace, aux caractéristiques physiques, géomorphologiques naturelles de l'espace, mais également il y a une zone de non-edificandi qui est en rapport avec les dispositions réglementaires ou juridiques. Et je peux prendre l'exemple à Dakar plus exactement, les zones qui subissent actuellement les questions des inondations. Et ces endroits, c'est des endroits qui, par leur nature géomorphologique, sont impropres et inaptes à l'installation des populations humaines. Et pour ce qui est du non-edificandi de fait, ou bien de la marginalité de fait, il y a le domaine public maritime. Voilà. Qui est un espace réglementé par la loi sur le littoral qui interdit l'occupation ou l'installation de populations hein, sur une distance de 100 mètres hein, par rapport au niveau de marée la plus basse. Et dans ces deux formes de non-edificandi ou bien de marge, il y a une forme de transgression qu'on a observée et qu'on peut observer toujours à Dakar. Voilà. Et ça nous pousse un tout petit peu à une autre lecture ou bien une lecture sociale de ces deux différentes formes de transgression. Et en conclusion, on retrouve dans l'un des cas qui est les zones inondables, qu'il s'agit d'une zone de marge pour une catégorie sociale qui est à la marge. Je ne sais pas si vous me
saisissez
pour une catégorie
oui,
sociale.
Oui, je t'entends très très bien et est... je suis en train de t'écouter très bien
voilà,
parce que pour, c'est très intéressant.
Pour une catégorie sociale qui est à la marge, à savoir les populations démunies. Et peut-être plus en profondeur, on va revenir sur ça pour des questions qu'on peut-être nous allons soulever. Et quand il s'est, pour ce qu'il s'agit de du domaine public littoral, du littoral. Vous savez, le Sénégal, c'est l'un des espaces les plus prisés. Et c'est un endroit qui n'est pas à la portée de tout le monde. Maintenant, si le littoral est occupé, et pour les prix au mètre carré que nous connaissons à Dakar, qui va peut-être parfois jusqu'à 1 million de francs CFA, 1 million de francs CFA, c'est dans les 1 500 euros le mètre carré pour un pays comme le Sénégal. Cela signifie que ce n'est pas donné à tout le monde d'habiter sur le littoral. Et comment les gens parviennent à accéder à ces terres-là? C'est là où ça devient intéressant. Et c'est par là qu'on parle de contournement ou bien de transgression du non-aidificandé.
Ok, je vois, c'est très intéressant. Et tu as parlé de la marginalité, de la marginalité dans les marges de la périphérie.
Mm-hmm.
Et voilà, quand tu parles de ça, je pense à un travail de recherche que j'ai amené en Italie. Mm-hmm. Et il s'agit des migrants illégaux saisonniers qui sont poussés à la marge et un processus qui a été provoqué par le système. Et quand je parle de la marge, poussée à la marge, je veux dire, c'est pas forcément un processus qui a à faire avec l'espace, mais c'est aussi un processus social, parce que la plupart des fois, les migrants, ils sont sans papier, et donc ils peuvent pas vivre dans des villes comme les autres individus, donc ils sont forcés à se cacher du système parce que sinon ils vont être attrapés pour la police et ils vont être emprisonnés. Et donc ils sont poussés à la marge d'une façon sociale mais aussi d'une façon spatiale. Ils sont poussés dans les bidonvilles, ils sont dans les zones rurales de sud de l'Italie par exemple, mais c'est pas seulement un phénomène qui intéresse les sud d'Italie, c'est aussi à le nord mais aussi dans les autres pays européens. Mais concernant les migrants illégalisés, parce que c'est un processus construit aussi, on devient illégal. On n'est pas illégal quand on est né. Ils sont poussés à la marge, ils sont forcés à vivre dans des zones rurales, à travailler dans l'illégalité.
Mm-hmm.
Le fait d'avoir pas des papiers qui les permettent d'avoir une vie normale lui pousse à occuper des maisons abandonnées dans les zones rurales pour accéder de façon plus facile aussi le travail qui est un travail dans l'agriculture. Comme j'ai dit déjà, c'est un travail illégal. Mm-hmm. Et pour avoir un accès plus facile à ce travail, ils sont aussi forcés de vivre dans les zones rurales. Donc, c'est en double face. Ils sont forcés parce qu'ils sont illégaux, ils ne peuvent pas vivre dans les villes, mais aussi à cause de la vicinité au travail illégal. Et ça, c'est un aspect de la marginalité des migrants.
Mm-hmm.
Et l'autre aspect que j'ai constaté concerne les centres d'expulsion, de déportation des migrants,
mm-hmm.
Qui sont aussi installés à les marches. Et où les migrants qui sont attrapés par la police vont être dans cet centre de déportation avant la déportation. Et donc, c'est un phénomène encore qui a lieu dans les marges de la société, parce que la plupart des fois, cet centre de déportation, on peut les rencontrer dans des zones rurales. Donc, c'est loin des yeux des gens. C'est un phénomène qui devrait prendre partie caché, d'une façon cachée. Et c'est pas une casualité, mais c'est construit aussi pour les systèmes. pour que l'illégalité puisse continuer à exister, parce que les gens ne sont pas indignés en voir ça. Donc, c'est ça qui ça passe, par exemple, avec beaucoup de migrants qui ont perdu leurs papiers ou qui sont arrivés, ils n'ont pas obtenu des papiers, et donc avec des sans-papiers.
J'ai un éclairage par rapport à ce que tu viens de développer là tout de suite, et peut-être avant tout ça, j'ai une autre, bon, une lecture hein, peut-être qui tend vers ma discipline. Quand j'étais entendu tout à l'heure parler de la marge de la société, mais également il y a de la marge à la marge de la ville, ce qui donne une marginalité territoriale à tes recherches. Mais surtout, ça peut soulever une interrogation sur le statut social ou bien le statut de l'individu. Ce qui est le déterminant ou bien ce qui crée la situation de marginalité pour l'individu. Et le constat général, dans ce que tu viens d'expliquer et dans ce que j'ai eu à trouver dans mes travaux de recherche, il y a fondamentalement un rapport avec la mobilité. Avec la mobilité, ou bien de manière générale, les déplacements d'individus, que ça soit d'une ville à une autre ville, d'un pays à un autre pays, dans une situation de légalité ou bien d'illégalité. Et c'est pour dire que très souvent, la mobilité constitue un facteur qui peut mettre l'individu dans une situation de marginalité ou dans une situation de marge. Parce que déjà au Sénégal, tout à l'heure j'ai évoqué un tout petit peu la marge territoriale ou bien la marge qui est déterminée par la structure ou bien la configuration géomorphologique du milieu de l'espace. C'est pour dire que là, c'est des zones qui sont pas habitables, qui sont des zones inondables. Et il se trouve que historiquement, l'espace en question, dans ces quartiers de Dakar qui sont déjà dans la banlieue, ce n'est pas des zones périphériques déjà. On peut considérer ça comme une marge, mais des zones mises à l'écart du centre et qui ont une particularité géomorphologique très intéressante parce que c'était des anciens Niaï. Les Niaï, c'est des dépressions interdunaires qui avaient des caractéristiques particulières également. Du point de vue de leur configuration, c'était la zone où il y avait une certaine végétation, plusieurs organismes hydrographiques, des points d'eau, des plans d'eau, tout ça. Et dans le courant des années 1970, il y a ce que nous connaissons tous de là-bas, c'est le phénomène de sécheresse qui a frappé le Sahel pendant plus de 2 décennies. Et ça a aussi eu des conséquences sociales extraordinaires parce que c'est à partir de ce moment que les zones de campagne ont commencé à être répulsives pour leur population, qui se sont levées, qui sont dirigées vers les centres urbains, les capitales de l'Afrique de l'Ouest. On connaît à partir de ce moment la venue massive des populations de la campagne. Et ces gens arrivaient, une fois arrivés en ville, il fallait nécessairement trouver des zones d'habitation. Et maintenant, quelles étaient les zones qui étaient disponibles? Ce sont ces Niaï-là qui, sous le coup de la sécheresse, ont connu un assèchement. Donc, les plans d'eau ont disparu. Ces individus se sont installés sur place. Aussi, il y a d'autres individus, ou bien des premières générations de migrants internes, bien sûr, hein, ceux qui viennent sont venus de la campagne pour s'installer, pour trouver leur chance en ville, qui ont connu le phénomène de déguerpissement du centre urbain et qui ont été installés ou bien relogés dans ces différentes localités. Et parfois même les toponymes qu'on a de ces lieux sont très évocateurs de ces situations de marginalité. Quand on va jusqu'à entendre des quartiers qui s'appellent Djamagun, c'est-à-dire que mieux vaut la paix, ou Haryala, attendre Dieu, des quartiers comme Wakinan, c'est-à-dire que à l'effleurement, on peut accéder à l'eau, tu vois. Ça donne une indication, soit hein, du péripétie vécu par ces populations qui ont été déplacées d'un endroit à un autre, ou bien des caractéristiques physiques du milieu qu'ils ont retrouvé sur place. Et pour dire que ces populations se sont installées comme ça dans ces conditions, dans ce genre de milieu. Et le caractère commun, c'est que c'est des gens qui sont pas des autochtones, qui sont pas originaires de la ville, qui sont pas originaires de Dakar. Et ils sont obligés de rester à la périphérie de la vie, de s'installer à la périphérie de la vie. Et plus tard, lorsqu'il y a eu le retour vers la normale de la pluviométrie, les conséquences des inondations étaient dramatiques parce que ces zones étaient devenues hyper densifiées, hyper urbanisées dans le style sénégalais, bien évidemment. Et avec toutes les conséquences que cela a eu pour ces populations, pour ces sociétés, pour du point de vue économique également, ça a été très dramatique lorsqu'il s'est agi d'observer ces phénomènes à s'abattre sur.
Maintenant, tu as parlé de déplacement, tu as parlé de migration, et bon, je constate que je pense que très souvent, il s'agit des groupes minoritaires qui subissent la marginalisation. Et voilà, avec référence à ça, concernant ça, et je me rappelle d'un travail que j'ai amené en 2007, un travail de recherche en tant qu'anthropologue social et culturel, en Jordanie, en Petra. Petra, c'est un lieu où les nomades qui sont appelés Bdoul, c'est un groupe ethnique, ils l'ont vécu dans les grottes de sept lieux pendant des siècles. Et voilà, ce qui s'est passé est que le site a été déclaré par l'UNESCO et par le gouvernement jordanien un Weltkulturerbe, et je ne sais pas comment se dit ça en français, un patrimoine culturel, patrimoine culturel de la Jordanie et mondial aussi. Et donc, à partir de cette fête, les nomades, ils ont été déplacés dans un village qui a été construit par les gouvernements. Et à partir de ça, ils ont subi une marginalisation, une exclusion sociale et économique très, très importante. Parce que, en premier lieu, les gouvernements ont construit des maisons qui ont essayé d'imiter l'organisation spatiale qu'on retrouve dans les grottes de Petra. Et ces lieux n'ont pas été compris des nomades comme des maisons qui sont très proches ou qu'on peut utiliser de façon similaire à les grottes. Donc, ce que ça passait dans la communauté, c'est que tout l'espace des maisons qui ont été construites avec du ciment ont été transformés pour la communauté. Comme ça, ils peuvent amener des activités qu'ils font avant d'être déplacés dans les villages. Donc, il peut continuer à faire certaines activités qu'ils ont fait déjà dans les grottes de Petra. Et voilà, ça a été un des changements, parce que des changements qui se sont amenés dans la communauté, parce que ils ont commencé à utiliser l'espace d'une façon différente, et ça a généré aussi des changements sociaux. Et par contre, les transformations de les maisons ont eu aussi des conséquences sur les sur les pratiques au niveau communautaire. Par exemple, je fais un petit exemple, ils ont commencé à transformer les maisons d'une façon avec laquelle ils ont utilisé les maisons comme magasins. Et aux côtés des maisons, ils ont construit des tentes, que c'est la construction typique et traditionnelle des nomades en général. Et donc, ça, c'était un changement. L'autre changement a été qu'ils ont été dans la pastorice. Avant d'être déplacés, ils ont travaillé dans la pastorice. Et ça n'a pas été possible dans la communauté, la nouvelle communauté que le gouvernement a construit pour eux, parce qu'ils n'ont pas de lieu où ils peuvent amener les animaux. Donc, ils ont commencé à transformer, quelqu'un d'eux a commencé à transformer les maisons pour mettre les animaux là-bas. Et des autres, ils ont abandonné complètement la pastorice. Et donc, ce qui s'est passé est que le site de Petra a été visité comme conséquence des politiques de développement touristique. Le site a été visité pour millions de personnes. Et donc, comme ils ont été forcés de lasser leur source économique à partir de la pastorice, ils ont commencé à travailler avec les touristes, à faire les guides touristiques. Et ils ont on été confrontés avec une réalité très différente de ce que ça a passé dans la communauté traditionnelle des bédouins, des nomades. Et ils ont été confrontés avec des drogues, avec de l'alcool. Et ça a causé beaucoup de changements sociaux. Dans la communauté, mais comme je l'ai déjà dit, aussi économique et spatial.
D'accord, mais de ce point de vue, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une mise en précarité, en situation de précarité de cette communauté? Ça, c'est de un. Aussi d'une mise en déliquescence, une perte de valeur sociale pour cette communauté.
Bon, ils ont aussi amené de l'agriculture avant, et j'ai pas mentionné ça. Et donc, à partir des de nouveaux villages où ils n'ont pas de terres pour faire l'agriculture, c'est un peu pareil là, des situations que j'ai rencontrées aussi à Dakar, dans des communautés marginales de Dakar. Et ils ont été expropriés de les terres, de leurs terres. Et pour une partie, et pour l'autre partie, comme je l'ai déjà dit, ils n'ont pas les moyens pour faire de la pastorice. Donc, ça a mis les gens dans une situation de précarité.
Oui. Et quand tu parles d'expropriation, mais ils ont été replacés ailleurs, quel est le statut de ces propriétés? C'est ce qui, ça leur appartient? Ils ont des statuts, un statut juridique ou bien administratif, quelque chose comme ça?
C'est une très bonne question, parce que ça, c'était aussi le même problème que j'ai rencontré à Dakar avec la communauté sur laquelle je travaille. Ils sont organisés, ou ils ont été organisés de façon traditionnelle. Il n'y a pas un droit qui est reconnu pour l'État et qui dit que cette terre s'appartient à eux. Mais ils savent dans la communauté que ça, c'est leur terre. On n'a pas besoin de les mettre dans un papier. Mais comme ça n'a pas été quelque chose d'officiel pour l'État, c'était très facile de les exproprier de leurs terres.
Parce que là où ça devient intéressant, tu as parlé de Dakar tout à l'heure, parce qu'à Dakar, on connaît ce que c'est que le droit coutumier. C'est-à-dire que la terre qui nous appartient historiquement, voilà, et que personne peut-être ne peut venir réclamer à notre place ou bien devant nous. Ok, mais à Dakar, il y a ce qu'on appelle les quartiers réguliers et les quartiers irréguliers. Et l'irrégularité de ces quartiers repose fondamentalement sur l'absence de documents administratifs qui attestent de la propriété d'une quelconque terre. C'est là où se trouve l'irrégularité des espaces, et c'est souvent ce n'est pas très bien compris par les administrateurs, par les populations elles-mêmes, ou bien par d'autres individus qui s'intéressent à ce sujet, à cette question. Et c'est seulement lorsque il y a besoin de récupérer cette terre pour peut-être des travaux, comme ça a été le cas avec l'autoroute à péage ou bien le train express régional, le TER, lorsqu'il s'agira des questions d'indemnisation, que les gens se rendront véritablement compte de la situation de précarité administrative et précarité sociale qu'ils ont toujours vécu dans ce milieu, parce qu'ils ne seront jamais indemnisés à la hauteur des standards qui sont définis pour ces genres de situations.
Bien sûr. Et toi aussi, tu m'as demandé s'il y a une perte des valeurs au niveau communautaire et je te dirai en parlant de réglementations et je dirais que souvent les processus de l'état des réglementations puissent à la perte des valeurs ou bien puissent avoir des nouveaux valeurs, à négocier des nouveaux valeurs et une autre organisation sociale, même que spatiale, comme je l'ai déjà dit. En fait, après qu'ils ont été déplacés de les grottes de Petra dans les maisons construites par l'État, les maisons ont résulté très petites parce que les nomades de Petra sont musulmanes, donc on a une famille extendue et dans cette famille il y a plusieurs générations qui vivent. Donc cette maison, on était vraiment très petit, on était construit pour les chefs de famille et avec les enfants. À partir de là, la prochaine génération de cette famille a pas eu un lieu où ils peuvent vivre. Donc ils ont commencé à construire un autre s'ils ont les moyens, ou bien ils ont abandonné la maison familiale pour aller à vivre dans des autres lieux. Et ça a généré un changement très très grand dans les familles de Petra.
Ça a généré un changement très grand dans la famille de Petra, mais également je remarque que ça donne beaucoup de similitudes avec la communauté sur laquelle tu as beaucoup travaillé chez les Lébous, parce que Je vois, quand tu me parles de besoin d'un espace, de formes d'habitation, des transformations dans le style, de l'habitat même, ça donne beaucoup d'indications sur ce plan. Et d'ailleurs également, je remarque autre chose, l'omniprésence de l'État, oui, dans la situation de cette communauté, et également, chez nous au Sénégal, l'État semble transparent dans ce qui se passe dans ces quartiers irréguliers. Mais lorsque un quartier est considéré comme irrégulier, un quartier est considéré comme inexistant juridiquement, un quartier est considéré comme n'étant pas là où il devrait être, et qu'après, l'État apporte de l'eau en addiction, leur apporte l'électricité, on peut dire que c'est une forme de reconnaissance. Peut-être n'est pas formelle, mais qui est apparente.
Et si ça ne passe pas, c'est en forme d'exclusion.
On exclut comme on peut.
On exclut
comme on peut. Et Dakar, historiquement, a été construit sur la base de plusieurs vagues d'exclusion, de la première installation du colonisateur aux autres projets modernes ou récentes du gouvernement pour l'organisation de la cité. Ça a toujours été accompagné d'exclusion, de déguerpissement. Et généralement, qui était déguerpi? Ce sont les étrangers, les arrivants de seconde génération, qui sont toujours impliqués dans ces processus d'exclusion. Et c'est pour dire, je ne sais pas si ce sera la conclusion, que toujours la mobilité a ton facteur de mise en situation de marge pour les différentes communautés, que ce soit dans les communautés africaines ou bien dans les communautés européennes. Et peut-être ailleurs, comme en Jordanie, comme vous nous venez de nous donner l'exemple avec la communauté
à Petra. Merci beaucoup, c'était très intéressant.
Merci Elytra.